Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Nous lisons pour cela dans 1 Samuel, chapitre 7, du verset 7 au verset 9. 1 Samuel, chapitre 7, du verset 7 au verset 9. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Si nous avons trouvé, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel pria l'agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. C'est un homme qui a crié, Seigneur, pour ses frères, pour sa nation. C'est un homme qui a crié pour sa famille. Et combien des hommes, ô Dieu, ne crient-ils pas ce matin pour leur vie? Ne crient-ils pas, ô Dieu, pour leur santé? Ne crient-ils pas, ô Dieu, pour les projets qui ne tiennent toujours pas? Ne crient-ils pas pour des choses, Seigneur, qui vont de mal en pire? Et pourtant, c'est devant l'Éternel qui entend les cris. Tu entends les cris et tu réponds. Et quand tu réponds, c'est souvent de façon spectaculaire. Seigneur, tous nous tendons, ô Dieu, à ce que tu nous exauces. Ce matin, exauce un homme. Ce matin, entends les cris d'un homme. Entends les cris de nos cœurs, ô Dieu. Entends les cris d'un adopté. Entends les cris d'un homme, ô Dieu, qui s'est donné à toi. Et il a pris une décision impopulaire. Parce que, Seigneur, mon Dieu, il savait que tu étais tout pour lui. Et ce matin, sois la réponse à nos cris, Seigneur. Bénis ta parole et qu'elle trouve le chemin de nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Nous pouvons recevoir la parole de Dieu par des applaudissements. C'est la parole qui donne la vie, la parole de l'Éternel, notre Dieu. Merci Jésus. Vous vous souviendrez que l'analyse de ces sous-points ou de ce chapitre d'Ebenezer, ou de cette section d'Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté, nous avait proposé trois vérités fondamentales. La première vérité que nous avons déjà analysée, c'était que par l'adoption, Dieu passe par l'adopté pour la survie du monde. Par l'adoption, Dieu passe par l'adopté pour la survie du monde. Nous n'y reviendrons plus. La deuxième vérité que nous avions commencé à analyser, nous l'avions présentée de la manière suivante. C'est que tout adopté est au départ un porteur voilé des solutions aux problèmes du monde. Tout adopté est au départ un porteur voilé des solutions aux problèmes du monde. Et la troisième vérité que nous pourrons voir, peut-être par la grâce de Dieu, un peu plus tard, c'est que par l'adoption, ton frère est la solution à ton problème. Mais retournons ce matin, continuons l'analyse ce matin de notre deuxième vérité fondamentale. Tout adopté est au départ un porteur voilé de solutions aux problèmes du monde. Et tout est parti de cette question que nous avions présentée sous forme d'une problématique lorsque nous avions dit les hommes solutions que nous admirons aujourd'hui, les hommes solutions que nous apprécions aujourd'hui, sont-ils perçus comme tels par les autres au départ? Et c'est là que nous avons compris que les hommes solutions, les hommes porteurs de solutions que nous admirons aujourd'hui, ne le sont pas toujours. Pourquoi? Parce que tout ce qui est précieux, tout ce qui est revêtu d'une grande valeur, Dieu les bâtit toujours caché derrière un voile. Tout ce qui a de l'importance, tout ce qui a une grande valeur, voyez les grands édifices tels qu'on les bâtit, ils ne se bâtissent pas à découvert. Vous allez voir, on met des tôles, ainsi de suite. Parce que ce qu'on veut faire là a une grande importance. mais aussi pourquoi ils se baptisent cachés derrière un voile, c'est justement pour préparer le « wow » des hommes lorsqu'ils verront l'œuvre du génie créateur. Et nous avons dit que le voile ne vient pas enterrer ta valeur, mais le voile vient préparer le jour de l'inauguration, le jour de la sortie officielle, le jour où tout le monde verra l'œuvre du génie créateur. Alléluia. Poursuivons l'analyse de cette deuxième vérité ce matin par cette autre question que nous présentons de la manière suivante. Puisque nous disons que tout adopté est au départ un porteur voilé des solutions aux problèmes du monde, posons-nous cette autre question ce matin. À quel moment Dieu a-t-il fait de Samuel adopté un homme porteur des solutions pour Israël? Puisque nous disons que tout adopté est au départ un porteur voilé des solutions aux problèmes du monde. Nous disons au départ, mais ce départ-là commence quand exactement? À quel moment Dieu a-t-il fait de Samuel l'adopté un homme porteur de solutions pour Israël? À cette question, notez, à cette question, écoutons la réponse que nous donne Jérémie le prophète. À cette question, écoutons la réponse que nous donne Jérémie le prophète. Et là, nous sommes dans Jérémie chapitre 1er, le 5e verset. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1er, le 5e verset. À quel moment Dieu a-t-il fait de Samuel adopter un homme porteur de solutions pour Israël? Écoutons la réponse à cette question avec Jérémie le prophète dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Lisons tous ensemble. La Bible dit quoi? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et quand vous lisez dans la version Parole de vie, il y a quelques précisions importantes que je voudrais relever ensemble avec vous. La Bible dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. La phrase se termine par, j'ai fait de toi mon porte-parole auprès du peuple. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès du peuple. Alors, cette réponse de Jérémie nous amène à comprendre deux choses importantes. D'après la réponse de Jérémie à notre question, il faut noter premièrement, c'est que chaque naissance d'homme sur la terre est perçue différemment entre le ciel et la terre. Je reprends. D'après la réponse de Jérémie à notre question, quelle question? À quel moment Dieu a-t-il fait de Samuel adopter un homme porteur de solutions pour Israël? D'après la réponse de Jérémie à notre question, il faut noter premièrement que chaque naissance d'un homme sur la terre est perçue différemment entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu es comme un film déjà tourné. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui regardent le même film. La première personne a déjà vu, a déjà regardé, a déjà visualisé le film. Il sait comment ça va commencer et comment ça va se terminer. Mais il y a un autre qui regarde pour la première fois. Il ne regarde pas de la même manière. Pendant que l'un qui regarde pour la première fois tremble, quand il voit la terre être bloquée quelque part, il dit c'est fini pour lui, mais le ciel dit attends la prochaine saison, attends la prochaine partie, attends la prochaine séquence. Je voudrais dire à un homme ce matin, c'est que dans ta vie, le ciel te regarde d'une manière, la terre aussi te regarde d'une autre manière. La terre te regarde comme un méprisé. La terre te regarde comme un misérable. La terre te regarde comme un vaurien. Mais le ciel est en train de voir un prophète des nations.
Le ciel est en train de voir un ADG. Le ciel est en train de voir un président de la République. Je ne sais pas comment le ciel vous regarde ce matin. J'ai des yeux physiques, je peux vous regarder avec des yeux humains. Mais il y a quelqu'un qui va au-delà des yeux humains. Il pèse l'inconnu, il pèse l'invisible et il voit des gouverneurs, et il voit des ministres, et il voit des pasteurs, et il voit des médecins, et il voit des hommes élevés. Regardez à votre vie 20 ans en arrière. Regardez à votre vie 30 ans en arrière. N'est-ce pas que vous n'étiez pas ce que vous êtes aujourd'hui? Là où la terre voyait un enfant comme tous les autres enfants, le ciel voyait un prophète des nations. Là où la terre voyait que bon, c'est comme tous les autres enfants qui naissent, et de toutes les façons même il est né Machombe. Mais le ciel voyait les baobas de demain de l'évangile. Le ciel voyait les grands de demain qui traverseront des océans pour prêcher la parole. Qu'est-ce que le ciel voit quand il te regarde? Peu importe ce que la terre peut faire comme commentaire quand elle te regarde, c'est la vision du ciel qui est la plus importante. C'est la vision du ciel qui est la plus extraordinaire. Je ne sais pas comment vous vous regardez vous-même. Je ne sais pas comment vous voyez vous-même. Mais je voudrais simplement ce matin amener un homme à comprendre qu'il n'y a pas que la vision de la terre qui existe. Le ciel aussi voit. Dieu aussi a sa façon de te voir. Dieu aussi a sa façon de te voir. Je me souviens de quelques années en arrière. Et quand je venais ici, c'était juste pour un petit tour d'une année ou de deux ans. J'obtiens mon diplôme de graduat parce qu'à l'IPEN, il y avait tout le temps des problèmes. Et puis je me dis, je fais un tour en Italie et puis je vais rentrer. Et quand j'arrive ici, Dieu me dit, ne rentre pas quand tu auras fini. Reste ici. C'est ici que je te bénirai. Et c'est chaque jour quand j'y pense, je pleure. Je dis à Dieu, et si je ne t'avais pas écouté? Et si je n'avais pas, c'était comme une parole, comme une pensée passagère dans mon cœur. Et pourtant, c'était la concentration de la révélation de Dieu. C'était la concentration du plan de Dieu. C'était la concentration de la vision de Dieu pour un homme. Dans cette concentration, il y avait le mariage. Dans cette concentration, il y avait l'appel au ministère. Dans cette concentration, il y avait des enfants. Dans cette concentration, il y avait l'édification de plusieurs autres personnes. Dans cette concentration, il y avait beaucoup, 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 beaucoup. Et si je te disais que tel que tu es là, il y a une concentration de la révélation de Dieu par toi. Il y a une concentration. C'est comme un lait concentré. Pour le prendre, on dit qu'il faut le diluer avec beaucoup d'eau. C'est-à-dire, en toi seul, tel que tu es concentré, tu es des fils et des fils, tu es des tonneaux pour abreuver plusieurs. Je ne sais pas ce que le ciel voit quand il te regarde. Ce n'est pas à moi de dire, voilà ce que tu seras. Tous, nous observons et nous constatons ce que le ciel a décidé. Personne ici ne participe au conseil divin. Personne ici ne siège avec Dieu pour savoir quel sera l'avenir de l'un ou de l'autre. Je ne peux pas te mépriser. Je ne peux pas te diminuer. Il y a quelque temps en arrière, hier, je le disais dans notre culte familial, j'ai vendu le pétrole. J'ai vendu le pain sur la tête. Et derrière ce petit homme qui faisait le kingongolo, il y avait la concentration d'un avenir glorieux. Il y avait la concentration d'un avenir extraordinaire. Je ne sais pas dans quel domaine tu évolues pour le moment. Mais je sais, je peux te dire à partir de mon parcours ce que ce Dieu est capable de faire. Je peux te dire à partir de mon expérience que ce que tu fais n'est pas tout ce que tu dois faire dans ta vie. Il y a des choses programmées qui se feront dans ta vie. Il y a des choses déjà planifiées. Il y a des choses déjà décidées qui se feront les unes après les autres. Il y a des choses déjà planifiées qui se feront les unes et les autres. Ça paraîtra comme un rêve lorsque tu vas commencer à assister à des changements. Ça sera l'œuvre de Dieu qui produira ses effets dans ta vie. C'est pourquoi ne te limite pas à ce que tu as déjà vu jusqu'à présent. Ne te limite pas à ce que tu as enregistré comme situation jusqu'à présent. Il y a un plan de Dieu décidé pour toi. Il dit que ton existence n'a pas commencé le jour où tu es sorti de la maternité. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Ce sont les hommes qui doivent enregistrer dans les livres de l'état civil. Nés le 14 juin, et telle année, ainsi de suite. Mais Dieu dit avant cette date-là, moi je te connaissais. Tu n'es pas le produit d'un homme. Tu n'es pas le produit d'un homme. Tu fais partie d'un vaste projet. Tu fais partie d'un vaste programme. Et qui sait ce qui va arriver à la fin de ce culte? Qui sait ce qui va arriver à la fin de cette semaine qui va commencer? Qui sait ce qui va arriver à la fin de ce mois? Qui sait ce qui va arriver à la fin de cette décennie? Il y a des plans ici. Il y a des plans ici. Il y a des plans ici extraordinaires. Il y a des plans ici extraordinaires. Ne néglige pas ton frère. Ne néglige pas ta soeur. Ne le minimise pas. Il passe par un temps où il est caché, c'est vrai, derrière un voile. Mais il y a un plan. Il y a un plan qui a été mis en place. Le ciel n'a pas gaspillé son temps pour programmer cet homme. Il y a un temps où cet homme sortira de l'anonymat. Il y a un temps où cette femme sortira de l'anonymat. Vous le verrez sur des places publiques et il ne sera plus la même personne. À quel moment Dieu a-t-il fait de Samuel adopter un homme porteur de solutions? David dit dans Psaume 139, le verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Oh, quand les yeux de tes hommes ne te voient pas, déjà, le fait que tu sois une masse informe, lui te voit. Et le jour où tu deviens finalement une masse formée, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Avant qu'aucun d'eux existât. C'est un plan déjà décidé, élaboré, planifié, validé, publié dans le ciel. C'est pourquoi de temps en temps, il faut coopérer avec l'agent communicateur, le Saint-Esprit. Quand il participe au conseil divin, il revient pour te dire, on vient de siéger, on vient de décider que dans peu de temps, tu seras tel. Oh! Oh! Il ne garde pas ses secrets, il revient. Il te dit, viens. Tonton m'a la conseille, Siko. Tonton m'a la conseille. On a décidé que dans peu de temps, c'est toi qui seras le DG. On a décidé que dans peu de temps... Il faut coopérer avec l'agent communicateur. De temps en temps, il faut aller vers lui. Il a des informations fiables et sûres. Nous aimons tous ce genre de personnes, non? Des gens qui sont autour des grands, des gens qui sont autour des chefs, des gens qui sont autour des décideurs. De temps en temps, mon cher, comment là-bas? Qu'est-ce qui a été décidé dans le conseil à l'Obiadagine? Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Il revient pour te dire, ne t'inquiète pas. Il reste juste un peu de temps. Déjà, le texte a déjà été planifié, j'ai présenté la mise en place. J'attends la validation du boss. J'attends la validation du boss. Je prie ce matin que ta mise en place soit signée. Je prie ce matin que cette mise en place-là soit signée. Que ce que Dieu a décidé pour toi soit signé. Que ce que le ciel a décidé t'arrive. Que tu sois ce que est la volonté du ciel et non ce que est la volonté des hommes. D'après la réponse de Jérémie, il faut te deuxièmement. D'après la réponse de Jérémie à notre question, deuxièmement, il faut noter que Samuel est déjà, avant sa naissance, porteur de solutions pour Israël. Oui ou non? Il ne l'est pas devenu le jour où les enfants d'Israël sont allés vers lui pour crier, pour lui demander de crier en leur faveur. Jérémie a répondu à cette question, c'est que tous les hommes porteurs de solutions, ils ne les deviennent pas quand ils naissent ou bien quand ils grandissent. Ils le sont déjà avant leur naissance. Donc, tel que vous êtes là, avant votre naissance, Dieu vous a programmé pour porter des solutions aux problèmes du monde. Maintenant, écoutez ceci. D'après la réponse de Jérémie à notre question, Samuel est déjà avant sa naissance porteur des solutions pour Israël. Cependant, la puissance de son cri dépend de l'œuvre de la grâce de Dieu et d'un processus de maturation qui transforme un adopté enfant à un adopté mature. Samuel est déjà avant sa naissance porteur de solutions pour Israël. Cependant, la puissance de son cri, parce que nous parlons de la puissance du cri de l'adopté, Cependant, la puissance de ton cri dépend et fonctionne de l'œuvre de la grâce de Dieu et d'un processus de maturation qui transforme un adopté enfant à un adopté mature. Et c'est là que je voudrais attirer notre attention ce matin et pour la suite de messages autour de ce chapitre, de cette séquence de Ben-Ezer. Notez ceci. À sa naissance, Samuel était porteur de la grâce de Dieu, oui ou non? Parce que la Bible dit, Samuel signifie, je l'ai demandé à l'Éternel. Anne a fait un deal avec Dieu. Il dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Donc c'est du donna-donna. Dieu donne, Anne aussi donne. Et c'est ça la relation extraordinaire avec Dieu. Déjà, quand Dieu donne par sa grâce. C'est dans sa grâce qu'il nous donne. Donc, quand Samuel naissait, il naissait déjà porteur de la grâce de Dieu. À sa naissance, Samuel était porteur de la grâce de Dieu et avait un cri qui attestait de son existence sur la terre, oui ou non? Parce que c'était un bébé. Tout bébé qui naît, pour savoir que ce bébé est en vie, il faut qu'il crie. Il avait la grâce de Dieu sur lui, mais il avait aussi un cri qui attestait de son existence. Mais le cri pour délivrer sa nation n'était pas celui d'un bébé. Le cri pour délivrer sa nation n'était pas le cri d'un bébé, mais un cri poussé dans la maturité. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous comprendre vraiment là-dessus. Il n'y a pas de puissant cri pour la délivrance des autres et du pays sans le processus de maturation. Il n'y a pas de responsabilité qui impacte les générations, qui impacte les autres, sans que vous ayez passé par le processus de maturation. Il n'y a pas de leadership qui impacte sans que vous ayez passé par le processus de maturation. Il avait la grâce, il avait un cri, mais ce n'était pas le cri en tant que bébé qui pouvait bien donner la délivrance à tout son peuple. Il devait passer par un processus de maturation pour que ce cri-là mûrisse de sorte que le jour où il lance ce cri, c'est la délivrance pour les autres. La puissance du cri de l'adopté. Le cri qui délivre les autres ne se ramasse pas. Le cri qui va délivrer les autres ne se fabrique pas. Mais c'est un cri qui passe par une chaîne de valeur. C'est un cri qui passe par un processus. Nous le verrons plus tard. J'en ai relevé 7 au total pour Samuel. Sans ce processus-là, vous crierez, mais votre cri sera stérile. Vous me poserez peut-être ce matin la question de savoir où se situe le processus de maturation quand nous lisons Marc chapitre 16, verset 17 et le verset 18. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de processus de maturation. Quand vous lisez Marc 16, 17 et 18, la Bible dit quoi dans Marc 16, 17? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Guéris. La Bible est très claire, vous me direz. La Bible est très claire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, quand ils croient aujourd'hui, ils n'attendent pas 2 ans pour chasser les démons. Ils n'attendront pas 10 ans pour imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. C'est du moment où ils ont Jésus en eux, du moment où ils naissent de nouveau en Jésus, tout adopté peut imposer les mains sur les malades et expérimenter cette parole, oui ou non. Il peut boire un breuvage mortel et ce breuvage mortel n'est pas les tuer. Il peut saisir les serpents et ne pas être mordu par les serpents. Il peut même parler en d'autres langues. Nous avons des cas dans la Bible, Corneille et les autres, avant même le baptême d'eau, déjà rempli, baptisé dans le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Vous me direz, mais là, il vient de naître, c'est-à-dire ceux qui croient, c'est-à-dire ils sont au départ. Ils viennent de naître et ils ont la possibilité d'imposer les mains aux malades et ainsi de suite. Où s'institue le processus de maturation ici? Car c'est aussitôt que quelqu'un croit en Jésus qu'il peut chasser les démons, parler de nouvelles langues, imposer les mains aux malades. Notez, tout ceci montre que ce sont des choses qu'un adopté peut faire et vivre déjà quand il est né de nouveau. C'est-à-dire quand il est enfant. Ce sont des choses que tout adopté peut faire quand déjà il est enfant. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne pense pas que quand tu as chassé un démon qui s'est soumis à toi, que tu es arrivé au sommet. Ne pense pas que quand tu as imposé les mains sur un malade et que le malade est guéri, que tu es arrivé au top de tout ce qu'il y a auprès du Seigneur. Ne pense pas que quand tu as bu un breuvage mortel et que cela ne t'a rien fait, que tu as atteint la maturité. Non. 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 Pense pas que quand tu as chassé un démon et qu'il s'est soumis à toi et que c'est le top de la marche chrétienne, au point que tu en crées même tout un ministère. Le ministère des chasseurs de démons. Au point que même beaucoup se sont illustrés aujourd'hui comme étant des chasseurs de démons. Ce n'est pas ça le top de toutes choses. Écoutons ce que Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 17 au verset 21. Luc chapitre 10, verset 17 au 21. Jésus envoie 70 disciples pour aller prêcher la parole avec la puissance de guérir les malades et de chasser des démons. Lorsque ces hommes reviennent vers Jésus, ils disent quoi au verset 17? Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. N'est-ce pas un exploit? C'est un grand exploit. Mais, continuons, le verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres des cieux. C'est-à-dire, Jésus est en train de les amener vers la maturité dans la compréhension des choses. Si tu n'as que, si tu n'as que mon nom pour te donner à chasser les démons, alors tu n'as pas encore grandi. Si tu n'as que mon nom pour bien t'habiller, alors là tu n'as pas encore grandi. Si tu n'as que mon nom pour avoir un sac de foufou, un sac de riz, là tu n'as pas encore grandi. Mais Jésus veut les amener à un niveau de maturité pour qu'ils comprennent, visez le ciel, visez le royaume des cieux, visez à ce que vos noms soient écrits dans les livres de vie. Et celui qui déjà est sûr que son nom est écrit dans les livres de vie, il peut s'habiller comme sur la terre, il ne dérange pas les autres qui sont autour de lui. Il peut construire des grâces ciel, mais il est humble, il est comme tout le monde, il ne s'enorgueille pas. C'est ça la marche de la maturité. Combien de gens autour de nous aujourd'hui, à peine il a acheté une voiture, mais c'est tout le monde qui est mal à l'aise. À peine il a ceci, telle promotion, mais c'est tout le monde qui en parle. C'est sur toutes les lèvres. Mais Jésus dit, c'est lui qui y a gagné toutes ces choses. Il est vrai que c'est à mon nom qu'il a reçu ces choses. Mais il en jouira pour peu de temps. Mais si vos noms sont écrits dans les livres de vie, cette jouissance-là est éternelle. Cette jouissance-là est sans fin. C'est pourquoi celui qui a les yeux sur le ciel, il ne regardera pas comme si c'était le top de toutes choses, la petite bénédiction matérielle qu'il a sur la terre. Car il n'y a pas que ça. Les chasses des démons s'arrêteront ici-bas. Imposer les mains aux malades va s'arrêter ici-bas. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de malades sur qui il faut imposer les mains. Au ciel, il n'y aura pas de démons qu'il faudra chasser. Au ciel, il n'y aura personne pour vous piéger avec du poison. Au ciel, il n'y aura pas toutes ces choses. Ce sont des choses basiques. Ce sont des choses élémentaires. Mais beaucoup se cramponnent encore sur ces choses-là. Et vous allez voir que les hommes qui ont compris toutes ces choses, même en étant païens, vous allez voir qu'ils ne sont plus dans des choses sophistiquées. Ils s'habillent de façon extravagante. Non, plus jamais. Moi, je papa pas à mon Moi, c'est que je suis chemise, je suis à Mais tout n'a plus. Ça veut dire qu'ils ont dépassé ce niveau-là où il faut présenter les griffes, où il faut présenter les maisons, où il faut présenter les voitures. La maturité veut à ce que nous puissions viser les livres de vie, que nous puissions viser les ciels. Visons les ciels. Visons les ciels. Samuel était dans la même maison où un groupe des enfants, Élie et Ophni, c'était pour eux la vie, s'était arrêtée au morceau de viande. Ils en ont même fait toute une fourchette à trois dents. Mais Samuel, nous allons voir plus tard, il vise le faune, il vise l'habit du sacrificateur. Il vise ce qui est plus haut. La maturité. C'est pourquoi dans Hébreux 5, 11 à 14, la Bible dit, et là je lis dans la version parole vivante, dire que vous êtes convertis depuis tant d'années, il y a longtemps que vous deviez être en train d'en enseigner d'autres, et pourtant vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, ils vivent des choses autrement. Beaucoup sont encore au niveau des laits. Beaucoup sont encore en train de passer leur temps dans des choses élémentaires. La Bible dit des rudiments, c'est-à-dire des choses élémentaires. Ça, c'est un démon. C'est formidable. Mais si tu ne t'arrêtes qu'à ça, tu t'es arrêté à ce qui est élémentaire. Imposer les mains sur les malades et tu as fait tout un ministère, ministère de guérison et de miracles, alors là, tu as un problème. Parce que Dieu te voit plus haut. Jésus te voit plus haut. Alléluia. Qu'est-ce qu'on entend parce que nous avons parlé de la maturation? Notez, la maturation est un progrès successif de fruits vers la maturité. Parce que le mot qui est dedans, c'est la maturité. La maturation est un processus de croissance, un processus d'évolution vers la maturité. Mais j'aime ici l'explication de la maturation telle que nous le présente une usine de fabrication de boissons, une brasserie. Et il est dit, j'ai aimé cette façon de présenter les choses. Ils disent que dans la production de la boisson, la maturation, c'est une période durant laquelle on verse la boisson dans des fûts en bois. Vous connaissez les grands fûts en bois, les grandes industries aux États-Unis, en Europe. Vous allez voir, la technique peut nous donner ce tableau. Donc, une période durant laquelle on verse la boisson dans des fûts en bois pour l'affiner et les clarifier dans le but de développer des saveurs nouvelles et meilleures que celles qu'elles possèdent déjà. Vous avez là, dans ce tableau, ce sont ces fûts en bois. C'est là où on verse des outres en bois, des tonneaux, des outres en bois. Voilà. Donc c'est là, la phase de la maturation, vous avez déjà dépassé le maltage, vous avez dépassé la fermentation et tout, et la boisson ou le vin est placé dans ces outres-là en bois. Et lorsque la boisson est mise dans ces outres en bois, il y a trois éléments importants qu'il faut retenir, qui interviennent dans ce processus. Dans ce processus, il faut d'abord, un, mettre le vin dans ces outres en bois, c'est-à-dire les fûts en bois où il faut avoir les fûts en bois où il faudra verser la boisson, mais aussi, il faut le temps. Parce qu'on n'ajoute plus rien, on n'ajoute aucun ingrédient, mais c'est seulement question du temps. Le temps où il faudra laisser reposer la boisson pour qu'elle profite des différents arômes et goûts qui sont contenus dans les fruits en bois. Et la troisième chose, ou le troisième élément important, c'est la volonté du brasseur. C'est par sa volonté qu'il met le vin dans ces outres-là, et le temps dépend aussi de sa volonté à lui. C'est-à-dire, le brasseur prend soin volontairement du produit affiné pendant le temps nécessaire pour que le résultat final soit à son goût. En fait, cette procédure vise à ce que, pour les brasseurs, qu'ils s'assurent que l'expérience du bois soit transmise dans la boisson. Et ça, c'est extraordinaire. Et les boissons que nous voyons de l'autre côté ne sont plus en bois, mais ce sont déjà des boissons qui sont dans des bouteilles. Nous sommes ici dans la phase du supermarché. Et là, nous sommes dans les sous-terres, dans des tunnels, nous sommes dans des endroits cachés. Mais ce qu'on voit sur les rayons qui nous impressionne, voilà sa source, c'est le bois. Le bois transmet l'expérience qui va égayer tout le monde sur la place publique. Le bois transmet le goût, le bois transmet les arômes, le bois transmet les saveurs, pour que sur le marché, quand tu bois, tu es dans la joie. Pour que quand tu bois, tu es heureux, tu es dans la gaieté. Je pose la question, eu égard à ce qui précède. Si les hommes avec leur petite intelligence et sagesse peuvent comprendre que le bois a quelque chose à communiquer à la boisson, qu'est-ce que le bois de Golgotha ne transmettra-t-il pas à un homme, à une femme, comme goût et saveur? C'est pourquoi ici nous avons le bois de Golgotha. Et là, ça me ramène à Philippiens, le chapitre 2, pour terminer, parce que nous devons terminer. Philippiens, chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Laissez les tableaux et nous trouvons dans la Bible et nous lisons. Le bois a une expérience à communiquer. Philippiens 2, verset 5 au verset 11. Nous connaissons tous ces passages. Il parle de Jésus-Christ. La Bible dit, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une foi arrachée, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Là, sur la terre, il était sur la croix. Quelques clous pouvaient le bloquer encore sur la terre. Et il est mort. Et il a été enterré. Le jour où il est enterré, l'agenda de Dieu a été déclenché pour lui. Dieu a commencé à compter. Il lui fallait 3 jours sous la terre. Et il fallait sortir de la terre. L'agenda de Dieu ne s'est pas arrêté là. L'agenda de Dieu s'est dit, c'est à Jérusalem où il a été crucifié et enterré. Je ne le ressusciterai pas à Matadi. Je ne le ressusciterai pas, je ne sais pas moi où. C'est là où il est mort. C'est là où il a été enterré que je vais le ressusciter. C'est là où tu as été enterré que Dieu va te ressusciter. C'est là où on t'a enterré que Dieu va te sortir. L'agenda de Dieu dit, il lui faut encore 40 jours sur la terre, afin que ceux qui l'ont tué voient que celui qu'ils ont mis à mort est réellement vivant. 40 jours dira, il s'est montré à plus de 500 frères dans la foi. Mais puisque l'agenda de Dieu ne devait pas s'arrêter par là, il y a eu ascension. Il est monté au ciel. Hier, bloqué par les clous, bloqué par les bois. Mais demain, ce n'est pas un fusée qui le fait monter. Ce n'est pas un avion qui le fait monter. Il n'y a aucune force de pesanteur qui le retient sur la terre. Pendant un temps, c'est un bois de la souffrance qui te retient par le processus de maturation. Mais le processus de maturation aura pour finalité l'ascension. Il faut que tu montes. C'est pourquoi quand il est monté, la Bible déclare, il est devenu l'intercesseur des saints. C'est lui qui crie pour nous auprès du Père. C'est pourquoi les enfants d'Israël disent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous. Ne cesse point de crier pour nous. tu crieras pour les autres après avoir passé par l'expérience de la croix de Golgotha. Quand tu es passé par ce processus de maturation, le bois ici te communique le goût. Le bois te communique les arômes. Le bois te communique la saveur. Et quand tu passes par ce bois ici, attends-toi à la montée spectaculaire. Attends-toi à l'élévation que tout le monde n'osera pas comprendre. Jésus est formidable. Jésus est extraordinaire. Il a été souverainement élevé. Tu seras toi aussi élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu porteras un nom qu'il te donnera lui-même. Ne fuis pas la croix du processus de la maturation. Passe par cette souffrance. Oui, c'est vrai. Mais ça te prépare à la montée. Ça te prépare à l'élévation. Plus rien ne te retiendra. Ça ne sera plus les clous qui vont te retenir. Mais tu monteras. Tout le monde verra l'œuvre que Dieu est capable de faire. Tout le monde verra ce que Dieu est capable de faire. Courbons-nous tête à la prière. Oh Jésus, merci. As-tu été touché ce matin? La croix de Jésus est encore là pour toi. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Approche-toi ce matin de ce trône de grâce. Viens à Jésus et il te sauvera. Viens à Jésus et il te transformera. N'as-tu pas encore donné ta vie à Jésus? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu es au loin. Lève-toi là où tu es. La croix est encore là pour toi. La croix est encore là pour toi. Il est venu pour te sauver toi aussi. Donne ta vie à Jésus ce matin. Lève-toi là où tu es. Et tu es là ce matin, tu es dans un processus. Et ce processus t'amène dans la maturation où tu es en contact avec le bois. Le bois ne vient pas pour te tuer. Un seul est mort sur ce bois-là. C'est Jésus de Nazareth. Il est mort pour que toi tu ne meurs plus. Le bois que tu traverses là ne te tuera pas. La souffrance que tu connais ne te tuera pas. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il t'a mis en contact avec le bois, non pas pour t'écraser, mais pour que tes bois te communiquent le goût, les arômes et les saveurs. Afin que tu sortes sur la place publique, sur le supermarché, comme un homme transformé, façonné. Jésus est celui qui change de vie. Et tu es en train de passer par le tonneau, par le fût, par le vase en bois. Lève-toi aussi là où tu es. Tu te dis, je n'en peux plus. Dans ce processus-là, il y a un timing. Il a été dit qu'il y a trois éléments essentiels. Il y a le tonneau, il y a le fût en bois, il y a le vase en bois qui est la croix. Il y a le temps aussi qui dépend du brasseur et la volonté du brasseur. C'est la volonté du brasseur qui veut que tu passes par la croix. Il ne te veut pas sur la croix pour te tuer. Mais si tu passes par la croix, c'est parce qu'il veut te donner les arômes. C'est parce qu'il veut te donner le goût que tu n'as pas jusqu'à présent. Tu passes par des épreuves. Tu passes par ce processus. Il y a un temps qui a été fixé. À l'issue de ce temps, il faut que tu bascules à la montée. Il faut que tu bascules à autre chose. Il n'a pas dit que tu mourras là-bas. Il n'a pas dit que tu sombreras là-bas. Mais il a prévu cette phase pour t'amener à la maturation. Et quand le temps du processus a été accompli, plus besoin que tu restes là. Il faut que tu passes à une autre étape. Et la prochaine étape, c'est la montée au ciel. Et tu l'as ce matin. Tu as besoin qu'il y ait un déclic. Tu as besoin que le processus se poursuive. Que Dieu crée un déclic. Que Dieu crée un déclic. Que Dieu déclenche le mécanisme pour que tu bascules à autre chose. Seigneur, vois ton peuple. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Dis-lui ce qui te passe dans ton cœur, ce qui te tourmente, ce qui te trouble. Tu n'es pas passé par des vases en bois pour rien. La croix ne te tuera pas. Elle a tué une seule personne, Jésus de Nazareth, pour que toi tu ne meurs plus. Mais la croix te donne le goût. Ce matin, sois au goût de Jésus. Ce matin, sois au goût final de Jésus. Il te prépare pour que tu sois à son goût. Ne pense pas que c'est fini. Il y a un goût qu'il est en train d'injecter. C'est selon le temps qu'il a prévu et dans sa volonté. Merci Seigneur.